O nome, por favor. Genivalda. O seu país, Brasil. E para você, um outro mundo é possível?
Brasil! Cuba! França!
México!
Senegal!
Porto Alegre, capital do Brasil, da luta pela democracia, pela solidariedade e pela justiça social.
Companheiras e companheiros, o Fórum Social Mundial que nos reúne aqui neste espaço da América Latina, do Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, tem um significado para a humanidade que certamente ainda não podemos aquilatar e dimensionar.
Eu vejo o Fórum, na verdade, de uma maneira não mítica.
En réalité, je vois ce forum comme d'une manière non mythique.
Uma parte, talvez, dos organizadores e uma parte da imprensa.
Une partie des organisateurs et de la presse.
Vê como uma espécie de virada positiva no milênio.
Le voit comme une sorte de virage positif du millénaire.
Eu vejo como um forte elemento político.
Moi je le vois comme un fort élément politique.
Para uma mudança na cultura política da globalização.
Vers un changement de la culture politique de la mondialisation.
Porque é necessário construir por dentro dessa cultura nova.
Parce qu'il est nécessaire de construire à l'intérieur de cette nouvelle culture.
As alternativas políticas e organizativas.
Des alternatives politiques et organisatrices.
Para um enfrentamento com o grande capital.
Afin de pouvoir affronter le grand capital.
Porque não há possibilidade de mudança na ordem global.
Il n'y a pas de possibilité de changement dans l'ordre mondial.
Somente pela mudança na consciência das pessoas.
Uniquement à travers un changement de la conscience des gens.
A consciência tem que se transformar em mudança na correlação de forças políticas.
La conscience doit toujours se traduire par un changement du rapport des forces politiques.
A correlação de forças é que vai determinar um outro caminho.
C'est le rapport de force qui va déterminer un autre chemin.
Isso ainda é, queira ou não, a velha luta de classe.
Et cela, pour le veuille ou non, reste toujours et encore la vieille lutte des classes.
Et nous ne nous sommes pas téléportés à Porto Alegre, mais nous allons parler avec les oreilles loin du front du Brésil. Alors que Lula vient d'être réélu à la tête de ce pays, nous avons voulu revenir sur sa présidence et la façon dont ce pays s'est transformé depuis qu'il a été élu en 2002. En plus, il se trouve que ces derniers temps, il y a un retour de la gauche un peu partout en Amérique latine, et donc il était intéressant de revenir sur ce sujet. Et pour cela, j'ai rencontré David Albrecht, qui est donc un Français qui a travaillé sur des projets de rénovation urbaine dans différentes villes du Brésil, qui étaient toutes gérées en fait par le Parti des Travailleurs, qui est le parti de Lula. Et pour commencer, je lui ai demandé ce qu'il faisait exactement comme travail au Brésil.
Donc j'ai habité au Brésil pendant 3 ans. Je travaille au Brésil sur la réhabilitation des centres-villes. Et donc j'habite à Rio pendant 3 ans. J'ai bougé un petit peu au cours de ces 3 ans un peu partout au Brésil dans le cadre du travail. Et puis j'y retourne régulièrement depuis que je suis rentré en France, c'est-à-dire depuis 2 ans.
Et quand tu parles de réhabilitation des centres-villes, ça veut dire quoi exactement ?
Ça veut dire qu'en fait, au Brésil, la plupart des centres-villes ont été abandonnés dans un processus d'urbanisation où les riches sont partis vers les plages. En gros, les pauvres sont arrivés plutôt en banlieue. Et donc, ils sont vides. Et donc, il y a tout un enjeu. Parallèlement, les villes brésiliennes s'étendent de plus en plus. Donc, ça pose de plus en plus de problèmes en termes d'infrastructures, etc. Et donc, l'enjeu, c'est comment récupérer ces locaux vides, en fait, hein, ces territoires vides, mais qui ont toutes les infrastructures déjà pour remettre des gens dedans et refaire la ville sur la ville, quoi, en fait.
Et quand tu dis remettre des gens dedans, ça veut dire quoi ? C'est qui ces gens que tu veux remettre dedans ?
Ben, c'est toute la problématique. En fait, nous, moi, je travaillais particulièrement avec une banque publique qui finance l'habitat. Donc, l'idée, c'était de faire du logement, c'est-à-dire partir. Il y a eu quelques expériences de réhabilitation de centre-ville au Brésil qui étaient basées en général sur le tourisme ou les choses patrimoniales, etc. En général, ça coûte assez cher et ça marche plus ou moins bien. Donc en fait, l'idée, c'était que la seule manière vraiment d'avoir une utilisation durable de ces territoires, c'était par rapport à des gens. Et donc, en fait, c'est toute l'ambiguïté de la chose entre une espèce d'image européenne de gentrification, etc., et les besoins du Brésil que les gens citent toujours, c'est-à-dire qu'il y a en gros 7-8 millions de besoins en logement, d'unités de logement, et il y aurait 5 à 6 millions de logements vides en ville. Mais c'est un débat qui n'est pas tranché et qui prend des tournures particulières selon les municipalités, en fait. Les municipalités plus à gauche travaillent plus sur le logement social et plus à droite sont plus sur du logement plus haut de gamme, sachant que, contrairement à la France, pour les riches, au Brésil, il est hors de question d'aller en centre-ville, c'est des territoires repoussoirs.
Et dans quelle ville tu travaillais, toi ?
Quand j'étais de manière permanente au Brésil, je travaillais dans une quinzaine de capitales brésiliennes, donc il y avait un peu de tout. Ça va de Belém au nord jusqu'à Porto Alegre au sud. Et là, actuellement, je travaille plus à Recife, San Luis et João Pessoa.
Et c'est des villes de gauche ou c'est des villes de droite, finalement ?
C'est des villes de gauche. Recife, CPT, donc Parti des Travailleurs. João Pessoa, c'est un dissident du PT, mais qui est plutôt plus à gauche et plutôt plus intègre, on va peut-être en parler. Mais, dans le Maranhão, c'est une alliance autour de deux partis de gauche.
Et donc, durant toute ton expérience au Brésil, tu as vu un peu le travail de Lula, on va dire, quelle a été son action particulière ?
Oui, enfin, je l'ai vu arriver, puisque en fait, quand moi je suis arrivé là-bas, c'était en 2001, donc il a été élu fin 2002, si je ne m'abuse. Donc, j'ai vu arriver, j'ai vu effectivement la mise en place de sa politique, etc., notamment en termes urbains. Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter qui est Lula finalement ?
Lula, c'est un fils du Nord-Est, il vient du Pernambouc, donc c'est l'état de. Donc, Recife est la capitale. Qui était issu d'une famille très pauvre, qui a émigré à São Paulo avec sa mère quand il était enfant, en fait, donc qui a vécu de métier de la rue, etc., pendant un certain temps. Il s'est formé, donc tout ça c'était pendant la dictature hein, au Brésil, dans les années 60-70. Il s'est formé comme travailleur avec la formation continue, etc. Il est devenu ouvrier, il est très rapidement devenu syndicaliste, et en fait, après, il a fait toute sa carrière dans le syndicalisme, donc à la fois dans des mouvements de résistance à la dictature d'abord, et puis ensuite, il est devenu un peu l'emblème de la gauche du Parti des Travailleurs. C'était un membre fondateur du Parti des Travailleurs, qui est un parti issu de la sortie de la dictature, et qui regroupe une constellation de mouvements de gauche. Voilà, de syndicats, de partis, d'associations, etc.
Et quel a été le programme du Parti des Travailleurs au moment où il a été élu ?
Alors, il s'est présenté 4 fois aux élections, Lula. Hein. Il a été élu 5 fois maintenant, donc il a été réélu la 5e fois, mais il a été élu, il s'est présenté donc 3 fois avant sans être élu. Il a toujours eu une plateforme de gauche. Cela dit, Lula, c'est quelqu'un qui a toujours dit que lui, il était du côté des travailleurs, il était ni à gauche ni à droite. Donc il n'a jamais revendiqué, je dirais explicitement, d'appartenance politique. Enfin, que je sache, hein, moi je suis juste un observateur très amateur de la chose, mais d'appartenance politique partisane. Et il a toujours identifié le Parti des Travailleurs comme justement un regroupement de forces des travailleurs, mais pas comme un regroupement de gauche particulièrement. Et alors le programme, son programme quand il a été élu, c'est difficile à dire. Disons que c'était un peu, je pense qu'un des axes principaux je dirais, c'est difficile de tracer des généralités comme ça, je m'en rappelle plus très bien en plus, mais disons que je dirais de ce dont je me souviens, qu'il y avait une volonté de continuité économique, d'une part, et d'autre part, de meilleure redistribution des richesses, en termes de ligne un peu générale d'action.
Puta me look, me look, love me.
Puta me look, me look, love me.
Tak sotaque, stak takshi.
Tak sotaque, stak takshi.
Tiki butiki, ki tiki tigamu.
Tiki tiki, ki tiki tigamu.
Tok si rock, si rock, rock me.
Tok si rock, si rock, rock me.
La 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 la. Bobby Dica, Dica, Jimmy Ringa, sim. Cai cigano, cai canone boy. Já arranjou, sentiu o fox. Salve me a cigarette, Billy Holly, Holly Flex. Chup, 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 chup. Pujante, chup, 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 chup.
Yeah, ele, yeah, ele, yeah, ele.
E logo aqui no Brasil que vai ser um país rico assim que esse diabo desse petróleo acabar. O dólar é moeda falsa.
O dólar é moeda falsa.
O americano já não segura as calças.
O americano já não segura as calças.
A Alemanha quase pedindo esmola.
A Alemanha quase pedindo esmola.
A inglesa não usa mais calçola.
A inglesa não usa mais calçola.
Suíça não lava a bunda de manhã.
Suíça não lava a bunda de manhã.
Ô, oh, cabrobó.
Ô, oh, cabrobó.
Eles vão tomar no fiofó.
Eles vão tomar no fiofó.
Alors, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et nous parlons du Brésil avec David Albrecht qui était au Brésil justement en octobre 2002 au moment de l'élection de Lula. Et je lui ai demandé ce que les électeurs attendaient de cette élection à ce moment-là.
Ça a créé un grand espoir, il a récupéré énormément de votes. Il s'est allié d'ailleurs au passage avec des gens plus ou moins douteux de la politique brésilienne pour arriver au pouvoir. Enfin, ça c'est les jeux d'alliance locaux. Et effectivement, il y avait un grand espoir, un peu dans le Libertador, quoi. Enfin, la personne qui allait tout bouleverser et complètement modifier le panorama brésilien. Chacun d'ailleurs y mettant un peu ce qu'il voulait, quoi. Parce que les espoirs issus des classes populaires sont pas forcément les mêmes que les espoirs issus des classes moyennes, par exemple, qui ont été un des éléments forts qui a mis Lula au pouvoir et qui était peut-être l'élément qui était le plus déçu de la population par ce qui parle par la pratique du pouvoir de Lula.
Et pourquoi ils ont été déçus?
Ben en fait, il y a deux choses. Il y a eu toutes les histoires médiatiques qu'il y a eu autour de la corruption, parce que le PT jouait énormément sur son image que nous, on n'est pas un parti comme les autres. Donc ça a fait les scandales qui ont été révélés ont fait d'autant plus de mal qu'ils se disaient vraiment, leur marketing était quand même vachement là-dessus. La deuxième chose, c'est que dans ses efforts de redistribution, Lula a quand même beaucoup favorisé les très pauvres. Donc il a mis en place le système de bolsa familia, etc., en récupérant un peu ce qui s'était fait, en rationalisant un peu ce qui s'était fait avant, et le programme Fin Zéro, qui est un programme un peu marketing, etc. Mais enfin, en tout cas, c'était vraiment en direction des misérables. Et parallèlement, contrairement à ce qu'il avait dit, les impôts ont plutôt augmenté, et plutôt au détriment des classes moyennes, quoi. Donc il y a eu, de ce point de vue-là, un sentiment un peu de trahison, je pense.
Que représentent en fait les classes moyennes au Brésil? Est-ce que c'est une forte partie de la population, ou est-ce que c'est une minorité, comme dans certains pays d'Amérique du Sud, où il y a des très riches, des très pauvres, mais il y a peu de classes moyennes?
Alors statistiquement, je ne sais pas très bien ce que ça représente, mais c'est une partie significative de la population, sachant que dans ces classes moyennes, il y a depuis le petit fonctionnaire public. On ne parle pas de classe moyenne au sens français, mais on est depuis le petit fonctionnaire public qui va être peut-être économiquement classé parmi les pauvres, jusqu'à ce qu'on appelle la classe moyenne au Brésil, qui sont plutôt les classes moyennes un peu riches, quoi, que classe moyenne aisée. Mais c'est tous ceux qui sont, c'est les, on pourrait dire les salariés, à partir d'un certain niveau, je ne saurais pas dire combien ça représente. C'est sûr qu'au Brésil, il y a beaucoup de pauvres, mais c'est une partie qui est assez significative et qui aussi a un fort, comment dire, c'est à elle que s'adressent les journaux. C'est une catégorie qui a, je pense, une importance politique assez forte, au moins perçue, parce que c'est eux qui lisent les journaux, etc. Peut-être que, d'ailleurs, c'est ce qui a été prouvé par la réélection de Lula, en fait, on leur donne en fait, médiatiquement une importance peut-être supérieure à ce qu'elles ont en termes de vote.
Et tout à l'heure, quand tu disais que Lula avait beaucoup fait pour la population des pauvres, ça veut dire quoi exactement ?
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était ce qu'il prétendait faire au départ. Non, ce qu'il a fait, alors c'est ce qu'on a lu dans les journaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de programmes assistentialistes. Donc, alors après, il y a des débats infinis pour savoir si est-ce que c'est bien de faire de l'assistanat, tout ça, les mêmes qu'on a en France, hein, avec des niveaux un peu différents. Mais qu'il y aurait, je ne sais plus combien, je crois 19% que le programme touchait 19 ou 20% des Brésiliens, ce qui est quand même assez conséquent. Donc des plus pauvres, hein, là on est vraiment dans la couche la plus pauvre de la société, ceux qui gagnent, je crois que Bolsa Família, c'est jusqu'à un salaire minimum. Un salaire minimum, ça fait un peu moins de 150 euros par mois. Donc ceux qui gagnent un demi-salaire, etc., ou moins d'un salaire minimum. Donc il semblerait en tout cas que ces gens-là, il y a eu une amélioration significative de leur qualité de vie, ce qui veut dire qu'ils mangent un peu mieux tous les jours, en gros, à ce niveau-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui n'a pas forcément eu lieu dans les gouvernements précédents. Maintenant, est-ce que c'est structurellement ce qu'il faut faire pour réduire les inégalités, etc. Le Brésil, c'est un pays très... C'est un des pays... J'avais lu d'ailleurs dans la presse brésilienne, il y a 3 ou 4 ans, un sondage sur les pays les plus inégalitaires du monde où il comparait les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Et en fait, le Brésil arrivait en 4e position des plus inégalitaires. Derrière, il y avait la Namibie, la Sierra Leone, le Zimbabwe, je crois, puis le Brésil. Donc en fait, on pourrait dire que c'est pratiquement le pays le plus inégalitaire du monde en termes d'économie qui compte un peu, quoi.
O movimento ele atua de forma colegiada, né? Nós não temos um presidente, vice-presidente, é tudo em forma de colegiada, né? O maior espaço de tomada de decisão do MST é o Congresso Nacional e depois o encontro estadual, né? E depois tem as reuniões da coordenação estadual, né? Então todas as decisões são tomadas em colegiado. Quando se tem algum tema que é polêmico e que não há consenso, né, se estuda, não se toma decisão, para quando tomar a decisão, tomar de forma mais consciente e
que as pessoas... E não tem voto.
Não.
Tudo por... E há pas de voto. As grandes decisões são prises ao nível nacional, mas tudo é regido por des conselhos, enfin, des présidences colegiales. E après, il y a la rencontre au niveau de l'État, il y a la coordination au niveau des États. Mais les décisions, quand il n'y a pas consensus, quand il y a polémique, eh bien, on s'arrête, on étudie, on rediscute et on prend la décision plus tard.
L'assentamento, il iniciou en maio de 94.
L'assentamento a commencé en mai 1994.
E é fruto de muita luta e muita organização que a gente passou por um processo de 5 anos acampado. Até chegar no assentamento aqui.
Il est le résultat de beaucoup de luttes et d'organisations. Nous avons resté 5 ans dans un campement jusqu'à pouvoir être établi ici.
A nossa cooperativa, ela é toda ela, a produção é toda coletiva.
Notre coopérative a la production tout à fait collectivisée.
A infraestrutura também toda é coletiva.
Aussi l'infrastructure est collectivisée.
E o lucro, ele é distribuído proporcional ao trabalho de cada um, às horas trabalhadas de cada um.
Le profit, il est divisé proportionnellement à des heures du travail de chacun.
E toda o que tem que mora individual é as casas e um lote, uma pequena chacrinha de 20 por 40, que é onde as famílias moram, que isso então é individual de cada família.
Ce qui est individuel, ce sont les maisons et le terrain de 20 pour, 4, pour 40 et, où les gens peuvent planter des choses pour la famille.
Et as famílias moram na Agrovila, que depois vocês vão ter oportunidade de conhecer.
Les familles vivent ici dans l'Agrovila, que vous allez connaître tout de suite.
Se a gente conquista a terra e continua adotando os mesmos o mesmo modelo, no nosso ponto de vista, nós não estamos cumprindo a função que o Movimento Sem Terra tem que cumprir dentro dessa perspectiva de construir um modelo de produção que seja diferente.
Conquérir la terre et ne pas changer les formes de production, on croit que ce n'est pas ce qu'on attend de nous, qui est d'essayer d'établir une nouvelle façon de vivre l'agriculture.
Alors, c'était un petit reportage sur le fonctionnement d'une coopérative gérée par des mouvements sans terre au Brésil. Et justement, j'ai demandé à David Albrecht quel était le rapport et quels étaient les liens entre le mouvement des sans terre et le Parti des travailleurs.
Ce qui est apparu dans les journaux, c'est que bon, les sans terre ont clairement appuyé Lula lors de sa première élection. Il semblerait qu'il l'ait plus ou moins implicitement réappuyé lors de sa réélection en calmant un petit peu leurs actions. Ils ont été très déçus par le rythme de la réforme agricole, de la réforme agraire. Je crois que ça s'est quand même un peu accéléré par rapport à ce qui se faisait avant, mais c'est clair que c'était très en deçà de leurs espérances. Quoi.
Par contre, toi, tu es spécialiste plus ou moins de ce qui est urbain. Et aussi, quand on parle du Brésil, il y a Porto Alegre, la démocratie participative. Est-ce que c'est un vrai effet? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a un rapport entre le mouvement altermondialiste et le mode de gouvernement?
Sur le budget participatif, je connais surtout le cas de Recife, qui est une ville pétée depuis maintenant 7-8 ans, quelque chose comme ça. Où là, effectivement, ils ont mis en place dès le début en fait un système de budget participatif très très poussé qui a clairement été le facteur de la réélection du maire qui a été réélu au premier tour, hyper bien, etc. Donc, et en fait, de fait, ça objectivement, ça a renversé complètement les priorités d'investissement du centre, enfin des quartiers plus centraux, on va dire, vers la périphérie. Donc il y a dans ce cas-là, après, tout le monde dit qu'il fait du budget participatif, même un certain nombre de municipalités droites. Il faut voir un peu qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière ça. Est-ce que c'est des conseils de quartier comme on fait en France? Parce que ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables, depuis la communication jusqu'à la gestion, la co-gestion plus ou moins avancée des choses. Mais enfin, en tout cas, à Recife, c'est très significatif et c'est très, ça marche bien. Ouais, ça marche bien.
Et comment ça marche finalement? Quel est le fonctionnement du côté participatif de la gestion de la ville?
Alors c'est un peu une usine, enfin c'est pas une usine à gaz parce que ça marche bien justement, c'est très très informatisé d'ailleurs. Mais en gros c'est tout un système de vote où les gens votent à la fois de manière individuelle et ensuite dans des représentations d'associations par rapport à des priorités d'investissement. Donc il y a des priorités de thèmes, après c'est classé en fonction de travaux, hein, c'est principalement des travaux, hein, de la voirie, hein, des équipements publics, des trucs comme ça, dans telle ou telle localité, et ensuite les gens votent, et en fait c'est priorisé en fonction du nombre de votes qu'a reçu tel ou tel projet.
Les gens, ils votent de chez eux finalement ou ils vont à des
réunions? Non, ils vont à des réunions. Donc il y a tout un système de réunions. Ça prend un an. C'est un processus qui dure un an. C'est l'élaboration du budget. Donc c'est l'année précédente. Ça commence dans les quartiers. Après, il y a des représentations par des structures qui fédèrent un petit peu les habitants. Ce qu'il y a en fait, c'est que je crois que sur les 4 ou 5 ans que ça a été mis en place, il y a 10 à 15% de la population qui y a participé, ce qui est énorme. C'est complètement spectaculaire, quoi. Par rapport à ce qui peut se faire en général dans ce type de truc participatif. Et en fait, le système est intéressant en cela qu'il a, surtout pour des populations pauvres qui sont, en fait, leur préoccupation quotidienne, c'est surtout de trouver à bouffer pour le soir. Donc, ils n'ont pas forcément... Et ils n'ont pas forcément la volonté de faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le système a permis complètement court-circuité tous les systèmes de représentation officielle, toutes les histoires d'associations d'habitants qui disent qu'ils sont des représentants d'eux, mais en fait, ils représentent qu'eux-mêmes, etc. Et aussi tous les systèmes de lobbying de la part des privés et autres. C'est-à-dire que, alors tous, bon, il y a toujours un peu de... je ne sais pas quelle est la réalité de la chose, mais il est beaucoup plus facile pour un politique de dire, quand il a une demande particulière, de dire, voilà, il faut que ça passe par le processus du budget participatif, c'est pas moi qui décide. Donc ça permet quand même de limiter d'une certaine manière la un certain nombre d'avantages et de systèmes parallèles, quoi, en tout cas.
Et sur le concret, est-ce que ça a changé des choses au sein de l'organisation, de la ville, sur les choix politiques, je ne sais pas, les écoles, les universités, que ça a mis en place des programmes particuliers?
Oui, au niveau concret des investissements, les infrastructures ont toutes basculé donc beaucoup plus vers la périphérie. Donc c'est de la voirie, de l'urbanisation de favelas, ce genre de choses. Après, je ne pourrais pas dire dans le détail, mais il y a eu un infléchissement très fort, justement plutôt... je dirais en partant de ce que les gens de la mairie qui projetaient les choses, qui, alors du fait de leurs intérêts ou tout simplement du fait de leur culture, qui sont issus de la classe moyenne, projetaient les choses comme si la classe moyenne représentait l'ensemble des habitants, vers une utilisation plus conforme, je dirais, à ce que les habitants de manière générale, y compris les plus pauvres, souhaitent. Au niveau de l'organisation de la mairie, c'est en train de bouleverser complètement l'organisation. Le secrétariat, qui est l'équivalent de la direction, au budget participatif a pris une importance énorme. C'est-à-dire qu'elle, de fait, tous les projets passent par elle. Maintenant, elle est associée, elle s'appelle la secrétariat du budget et de la planification participative. Et donc, l'idée, le prochain pas, c'est en fait d'essayer d'arriver à intégrer d'une part la planification urbaine, la sélection des travaux, etc., et le contrôle populaire, je dirais, de la mise en œuvre. Donc, avec la décentralisation de la décision sur la mise en œuvre dans des quartiers. Donc, après, il y a toute une division en unités administratives de la ville, etc. Donc, c'est en train d'impacter, avec beaucoup de résistance, évidemment, mais c'est en train d'impacter de manière assez conséquente.
Et quelles sont ces résistances ?
C'est la résistance des services techniques qui veulent pas être décès. Ça, c'est des choses qu'on retrouve partout dans le monde. Hein. C'est pas spécifique au Brésil. Des services techniques qui veulent pas être dessaisis de leurs prérogatives. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui gagne du pouvoir, il y en a d'autres qui en perdent. Donc voilà, ceux qui perdent sont pas contents.
C'est plus des résistances au niveau de l'administration que des résistances au niveau de la population locale.
Je connais, parce que je travaille pas mal à Recife avec des gens qui travaillent sur la planification urbaine, donc avec toutes ces histoires de budget participatif, donc je vois un peu les résistances qu'il y a dans l'administration. Au niveau de la population locale, en fait, d'après ce que j'en vois, il peut peut-être y avoir des résistances en sous-main, etc., mais globalement, comme c'est quelque chose qui est populaire et qui marche, c'est difficile d'être frontalement contre, quoi. Ce dont je parle, quand même une petite précision, ce dont je parle, c'est Recife, ça n'a rien à voir avec Lula.
Ouais.
C'est le maire de Recife, João Paulo, qui...
qui lui est de quelle partie?
Qui est pété. Qui est pété, qui a été le directeur de campagne de Lula, je crois, la première campagne, mais qui a sa politique autonome. Au Brésil, les strates administratives sont séparées, autonomes, beaucoup plus qu'en France. Donc il y a l'État fédéral... Il y a 27 États fédérés, après il y a 5000 municipalités à peu près, et chacune est complètement autonome, donc chacune fait ses lois, a son législatif, son exécutif et son judiciaire. Donc l'État fédéral, il fait des lois cadres, et après les municipalités choisissent de les mettre en œuvre ou pas, etc. La politique de Lula sur les villes, en fait, ce qu'elle a changé, c'est que, en fait, avant il n'y avait pas de politique fédérale sur les villes. C'est-à-dire qu'après la fin de la dictature, il y a eu un vide, en fait. Il y avait un secrétariat fédéral au développement urbain, mais qui était plutôt un organisme pour repasser des subventions aux copains, ou enfin en tout cas, qui était plutôt sur la base de la négociation et de repasser des subventions pour faire des travaux, mais qui n'avait pas de stratégie. Et en fait, Lula a créé le ministère des villes, qui a regroupé donc le transport, l'habitat, les programmes urbains, le foncier, un certain nombre de choses comme ça, pour élaborer des stratégies. Donc ça a été un pas institutionnel énorme de la reconnaissance que le gouvernement fédéral avait la légitimité et le, pouvait chapeauter, c'est difficile, mais disons en tout cas orienter et avoir une position sur le développement urbain de manière générale. Après, l'application a été un peu chaotique, je trouve, parce que ça, c'est, moi j'ai travaillé pas mal avec le ministère des Villes, qui a un programme de réhabilitation des centres-villes à l'intérieur, donc. Ben, disons, après, ils étaient en sous-effectif, ils avaient peu de moyens, comme c'était un ministère qui se créait, et on retrouve aussi un peu les travers qu'on peut, souvent inhérents à la gauche, qui sont de... d'avoir des querelles de chapelle qui souvent d'ailleurs sont des querelles de pouvoir personnel qu'on cache derrière des idéologies. Donc il y a eu ça aussi au sein du ministère des Villes, puisque le développement urbain c'était quand même un thème fort de la gauche au Brésil, avec toutes les histoires de mal logés, des favelas, etc. Et puis là, l'urbain, donc c'est 80% des habitants au Brésil. Et donc ça a été investi par, ça a été un enjeu de pouvoir très fort, donc ça a été un frein. Et l'autre frein, c'est que c'est vrai que je pense qu'il y a un apprentissage de l'opérationnel qui se fait petit à petit, et il y a eu énormément de participation, c'était très participatif, peut-être qu'au détriment parfois de l'opérationnel, c'est-à-dire que, parce que le participatif, des fois, ça fait reculer énormément la mise en œuvre. Or, faut peut-être savoir un peu balancer entre la réflexion et la mise en œuvre des choses, quoi, de manière à avoir des choses concrètes qui sortent. Donc il y a eu énormément de lenteur, il y a énormément de lenteur dans le processus, mais le ministère des Villes, c'est quelque chose de... c'est une avancée fondamentale au niveau du développement urbain brésilien.
Et nous parlons du Brésil avec David Albrecht. Et pour terminer, je lui ai demandé quels étaient les succès du gouvernement de Lula.
Dans les grands succès de Lula, il y a quand même sa politique étrangère. Enfin, moi, je trouve. Où c'est quand même la première fois que le Brésil arrive à s'imposer comme un acteur un peu autonome dans la politique internationale. Donc voilà, avec une vision assez pragmatique, hein, donc ils sont pas tellement idéologues, ils sont pas du tout opposés aux États-Unis, hein, mais ils veulent juste pas, enfin qu'on prenne en compte leurs intérêts aussi, quoi. Je sais pas, Lula essaye de, d'ailleurs ça a été pas mal critiqué parce qu'à un moment il voyageait beaucoup, etc. Mais il essaie énormément de développer les contacts avec d'autres pays du Sud, donc avec la Chine, avec l'Afrique. Il était au moins 2-3 fois en Afrique, je crois. De manière, et à la, aussi il est, c'est un des grands promoteurs de l'intégration régionale, donc avec l'Argentine, le Cône Sud, et puis donc les autres pays d'Amérique du Sud, y compris le Venezuela. Ouais.
Et ça veut dire quoi, l'intégration régionale?
Ça veut dire en fait de prioriser les commerces ou les échanges de manière générale avec les voisins. Donc les complémentarités... au niveau économique, ça veut dire baisser les droits de douane, par exemple, de manière à ce que favoriser l'échange de personnes aussi, comme ce qu'on a en Europe. Hein. Enfin, c'est un type de l'Union européenne, c'est un type d'intégration régionale, par exemple.
Et quels sont les rapports de Lula avec les grandes instances internationales, genre l'OMC ou le FMI ou la Banque mondiale? Est-ce
qu'on l'a vu à la fois à Davos et puis on l'a vu au forum social. Donc,
Bah, Lula, c'est, je pense, c'est un pragmatique, hein, donc il est pas, il va là où il pense que l'intérêt, il va pouvoir défendre l'intérêt du Brésil. Donc, je pense que c'est un peu ça sa vision. Il pense que c'est bien qu'ils aient une place au Conseil de sécurité de l'ONU, donc il essaie de pousser pour ça, il fait du lobbying pour ça. Et donc voilà, donc je pense qu'il a cru en l'OMC jusqu'à ce que comme un outil vraiment qui permettrait de profiter aux pays du Sud, contrairement à ce que plein de gens disent. Et en fait, c'est peut-être possible qu'il ait raison, puisque quand ça allait commencer à profiter aux pays du Sud, c'est les pays du Nord qui l'ont bloqué. Donc voilà, il a investi, il a un très très bon ministre des Affaires extérieures, hein, qui est Celso Amorim, qui joue très bien ce rôle-là, justement, de pousser les intérêts du Brésil à l'étranger. Et qui utilise les structures multilatérales pour ça.
Et Lula a été réélu, et pendant toute la campagne, on a parlé de corruption, d'achat de voix. Est-ce que ça a eu un effet particulier sur la population ?
Bah, en fait, il semblerait que non. Alors, la corruption, l'achat de voix, moi, je n'ai pas entendu parler d'achat de voix par le PT. Hein. Mais c'est une pratique courante au Brésil. C'était une pratique courante, je pense que c'est quand même en train de devenir de plus en plus résiduel. Je ne crois pas que le PT fasse... Enfin, le PT ne fait pas partie des partis, je pense, qu'ils font appel de manière prioritaire. Peut-être certains de leurs alliés, parce que des fois, ils s'allient un peu avec n'importe qui. Le fond, mais ça n'agit pas d'achat de voix. Non, le gros choc, ça a été toute l'histoire de corruption par rapport donc à cette image de PT qui était le parti des incorruptibles, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Alors certains disent, les gens un peu qui étaient contre lui disent que il a réussi à embrouiller tout le monde, etc. En disant que c'était pas lui qui était pas au courant, tout ça. Bon. Je pense que c'est à peu près évident qu'il était au courant d'une partie des choses qui se passaient, mais je pense que d'une part, peut-être qu'il y a un certain nombre de gens, notamment parmi les plus pauvres, qui ont vu quand même que leur condition de vie avait augmenté. Alors, on peut dire que les programmes assistentiels, c'est de l'achat de vote. Après, bon, c'est très discutable, mais n'empêche que c'est quand même des... Enfin, moi, je pense que c'est quand même un acquis fort. Et aussi, un certain nombre de gens qui n'ont pas été dupes du fait, et ça c'est le discours qui tenait dans ces débats, de dire que, ok, il y a de la corruption, il y en a toujours eu, mais au moins moi je l'expose et je laisse les enquêtes policières et judiciaires aller à leur terme, alors qu'avant on maquillait ça, on étouffait ça, et ça sortait même pas, donc personne ne le savait. Et ça, je pense que c'est assez réaliste, et que donc ça... Enfin, ça correspond assez bien à la réalité, et donc ça, les gens ont un peu compris. Mais cela dit, c'est vrai qu'il a déçu énormément de gens. En fait, je pense que là, le vote n'a rien à voir avec le vote d'il y a 4 ans. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un vote de dire, de toute façon, Alckmin, c'est largement pire. Donc, il n'y a pas vraiment le choix, quoi. On est plus là, alors qu'avant, Lula, c'était vraiment un espoir. Maintenant, c'est plutôt le pis-aller, quoi.
Quand tu dis c'est largement pire, ça veut dire quoi ?
Bah, c'est le retour à l'ancien système, c'est-à-dire que c'est les élites qui reprennent le pouvoir, donc qui l'ont jamais vraiment perdu, mais donc qui reprennent le contrôle complet du système, et donc qui remettent en place un système qui perpétue les inégalités, on va dire, donc à la fois en termes de corruption, mais de manière générale de contrôle de l'économie, tout ça. Je pense que la corruption, ça reste un gros problème. Y compris, il y a quand même des gens au PT qui sont complètement... Parce que les gros scandales d'achat de voix, ça a été... En fait, c'était un petit peu l'idée de la fin justifie les moyens. On n'était pas dans l'histoire de l'enrichissement personnel des gens. Enfin, en tout cas, pas des gens du PT qui ont acheté les voix, mais de dire, voilà, on a des réformes importantes à faire passer. La Chambre des députés est pourrie. En gros, il y a un tiers, ils sont à nous, un tiers qui sont contre nous, et un tiers qui sont à acheter, on va les acheter. Voilà. Et comme ça, on va faire passer nos trucs. Bon, qui est quelque chose qui... Et comme ils sont moins malins que les mecs de droite, ils n'ont pas réussi à faire ça sans se faire choper. donc moi, c'est un peu l'analyse que j'ai de cette histoire. Donc, je sais pas pour ces... Moi, j'ai l'impression que vraiment des trucs qui est l'essentiel par rapport au Brésil, c'est vraiment l'histoire de la corruption. C'est-à-dire que si, d'une manière ou d'une autre, la corruption diminue. Ça va générer tellement d'argent, en fait, hein, que déjà, que les gens soient de gauche ou de droite, c'est un saut qualitatif, c'est le saut qualitatif le plus important, quoi, pour moi. C'est la diminution de la corruption. Mais je pense que... Après, c'est très difficile, parce que la corruption est à tous les niveaux, donc c'est difficile de lutter contre, quoi. Donc c'est un travail de longue haleine, et puis on ne change pas comme ça une structure sociale de 500 ans. Il y a des mécanismes qui sont considérés comme normaux de corruption, du fait que les élites confisquent le revenu national, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est normal. Mamãe, bota no colo, me dá de mamar no peito, balança pra eu arrotar. Balança pra eu arrotar. Boi, boi, boi da cara preta. Pega o pãozé que ele tem medo de careta. Boi, 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 cara de louça. Pega o pãozé que ele tem medo de moça. Boi, 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 cara de lua. Pãozé ainda chora quando vê moça nua. Yelelele, yelelele.
Pour terminer l'entretien avec David Albrecht, je lui ai demandé où en étaient les mouvements sociaux au Brésil.
J'ai l'impression que c'est très variable selon les villes, en fait. C'est-à-dire qu'à São Paulo, par exemple, il y a quand même des mouvements des sans-toits, il y a des mouvements... Alors, altermondialiste, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas comment on peut définir ça aussi, mais c'est plutôt des mouvements qui sont préoccupés. Enfin, d'après ce que j'ai l'impression, on est plus sur des préoccupations un peu plus immédiates et directes, genre les sans-terre, les sans-toit, ce genre de choses. Après, je suis pas sûr, alors là encore ça dépend vraiment des endroits, mais il y a des endroits, à Rio par exemple, où moi j'ai habité pendant 3 ans, les mouvements associatifs sont extrêmement faibles, quoi. Il n'y a rien. C'est-à-dire, les associations d'habitants sont en général achetées par les politiques. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. Enfin, moi, je trouve, il y a des mouvements culturels forts, du hip-hop, etc. Donc, ça, après, ouais, les mouvements culturels, effectivement, c'est autre chose. Il y a des mouvements culturels qui sont très forts dans beaucoup d'endroits du Brésil. Donc, il y a le Manguebit à Recife, où il y a, je ne sais pas si tu connais Nelson Zombi. Didi Dolores, je sais pas qui, tous ces gens-là qui viennent de ce Otto, Mundo Livre, et toute cette bande-là qui viennent de ce mouvement. Il y a une culture hip-hop et une culture funk qui sont très fortes à Rio. Il y a une culture hip-hop très forte à São Paulo. Donc ça, et qui ont aussi, ce qui est intéressant dans le hip-hop brésilien, c'est que il a gardé, et on retrouve ça aussi dans le Mangue Beat, etc., mais ils ont gardé un discours social que souvent, le rap américain le mainstream du rap américain a quand même un peu laissé de côté. Donc, on est dans la culture engagée, quoi. Donc ça, moi, je trouve que c'est assez fort là-bas, effectivement.
Alors voilà, nous étions avec David Albrecht et nous parlions de Lula et de la façon dont les choses avaient changé au Brésil depuis son élection et maintenant sa réélection.
Voilà, les oreilles loin du front se terminent pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter l'émission désormais le vendredi de 12h à 14h30. Non, de 12h. Le vendredi midi, n'est-ce pas ? Merci les gars. Vous pouvez également réécouter toutes nos anciennes émissions, en tout cas les dossiers, les chroniques, les reportages, les mix, sur notre site tout nouveau, tout beau en.org. Guillaume, c'est quoi l'adresse ?
Tout simplement, c'est http://. www.loldf.org.
Ah, loldf.org, donc. Et voilà, bah, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 19h, comme toutes les semaines, et on vous laisse dans les bras d'Écho du Capricorne.